société devait empêcher. On disait, on ne prête pas pour que vous appreniez, que vous gériez vos comptes de manière plus sérieuse la prochaine fois. Résultat, la crise s'amplifie, la crise s'aggrave. Donc on a une gestion par Sarkozy et par Merkel de la crise qui a été sans doute l'une des plus calamiteuses de l'histoire économique moderne. Dans le New York Times, on pouvait lire ce titre il y a peu de temps, « La Banque centrale européenne va-t-elle aider les nations autant qu'elle aide les banques ?» Mais ce n'est pas une question qu'on retrouve uniquement dans le monde diplomatique, c'est dans le New York Times. Et même les analystes du Crédit Suisse, qui ne sont pas non plus des combattants anticapitalistes acharnés, estiment qu'il est absurde d'exiger que l'Italie paie des taux d'intérêt de 7% quand n'importe quelle banque ordinaire peut emprunter auprès de la BCE pour la moitié, voire pour le tiers. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier élément du décor, des politiques économiques imbéciles et des politiques économiques qui aggravent la crise, qu'elles sont censées éliminer, supprimer ou en tout cas calmer. Maintenant, la deuxième étape, c'est que cette crise risque de relancer les hostilités, les antagonismes nationalistes. Parce que grâce à l'Europe, avec tous les guillemets d'usage, les Allemands sont en train de mépriser les Grecs et les Espagnols, les Français sont en train de mépriser les Italiens, et les Grecs en viennent à comparer l'Allemagne de Merkel à celle qui les a occupés il y a 70 ans. Les Italiens, eux, sont outrés par les coups de fil répétés de Nicolas Sarkozy, leur enjoignant d'accélérer la fréquence de la purge. Vous avez des peuples européens qui ont de plus en plus conscience que les décisions échappent à leur gouvernement et que ce sont des gouvernements étrangers, certes européens, mais étrangers, qui imposent des purges répétées et des purges de plus en plus sévères. Donc vous avez la stupidité financière avec cette politique de l'euro, la calamité politique avec le retour aux antagonismes entre pays européens, ce qui est quand même un beau succès pour l'Europe, hein. Et vous avez maintenant la mise en cause de la démocratie qu'on observe en Italie ou en Grèce, où des gouvernements légitimes, issus de votes populaires, quoi qu'on pense de Berlusconi ou quoi qu'on pense de Papandréou, ont été renversés à la suite de pressions de gouvernements étrangers, voire d'instances supranationales, comme les marchés financiers ou la Banque centrale européenne, qui n'ont aucune légitimité démocratique. Alors pendant ce temps, j'en viens à la question, où est la gauche ? Il y a ce contexte-là, où est la gauche ? Et il est évident que quand on envisage que la prochaine élection présidentielle déjà opposera Nicolas Sarkozy à François Hollande, qui ont été d'accord sur le traité de Maastricht, sur le traité de Lisbonne, qui ne mettent pas en cause directement, fondamentalement, ces traités européens qui accordent un pouvoir extravagant à la Banque centrale européenne, qui a maintenant le pouvoir de mettre à genoux des États et des peuples, la question de la réalité de l'affrontement politique est réellement posée. On a donc ce contexte pour l'Europe. Et lorsqu'on veut faire la comparaison avec la situation des années 30, qu'on fait parfois, il faut bien constater que l'un des éléments principaux de différence entre les deux situations, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'alternative politique, d'autres choix économiques et sociaux proposés dans le monde à l'heure actuelle, peut-être à l'exception de l'Amérique latine, dont Renaud Lambert nous parlera. Mais à l'heure actuelle, vous avez cette situation en Europe. Et lorsqu'on parle des grands débats qui opposent l'Europe à la Chine ou certains pays européens aux islamistes, il faut bien voir que la Chine, comme les partis islamistes, défendent le modèle libéral capitaliste, assaisonné ou non, selon les cas, de charité religieuse. Et on a eu récemment quand même cette déclaration stupéfiante d'un patron du fonds souverain chinois qui vient de prendre une participation dans GDF Suez, déclaration que vient de relever Martine Bullard dans son blog du Diplo, qui expliquait à Al Jazeera, je cite, « Les troubles qui se sont produits dans les pays européens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de course vivant d'acquis sociaux. Je pense que les lois sociales sont obsolètes. Elles conduisent à la paresse, à l'indolence, plutôt qu'à travailler dur. Le système d'incitation est complètement détraqué. Pourquoi les habitants de certains pays de la zone euro devraient travailler jusqu'à 65 ans et plus, alors que dans d'autres pays, ils prennent aisément leur retraite à 55 ans et se prélassent sur la plage ?» Ça, c'est un dirigeant chinois qui tient ses propos. Donc au moment où vous avez en Europe des gouvernements sociodémocrates qui mènent les politiques qu'on vient de décrire. Vous avez un dirigeant chinois qui, très loin, reproche en quelque sorte à ces gouvernements européens d'être encore trop généreux, d'être encore trop sociodémocrates, et qui leur propose d'adopter le modèle dur à l'américaine. On a l'impression d'entendre un dirigeant du Parti républicain américain.